RFI Pile, 10h temps universel midi, ici à Paris, il est 6h du matin, à Atlanta, bonjour.
Charlotte Idrac.
À la une, panique chez les démocrates aux États-Unis après le premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Le président américain est apparu affaibli, dépassé, la voix cassée. Dans son camp, plusieurs cadres appellent à trouver un plan B pour la présidentielle de novembre. La présidentielle en Iran, c'est aujourd'hui, c'est le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui a lancé les opérations de vote. Un scrutin pour remplacer Ebrahim Raisi, décédé dans un accident d'hélicoptère. 4 candidats sont en lice. À la une aussi, dernier jour de campagne en France. Ce soir à minuit, ce sera fini avant le premier tour des législatives ce dimanche. Et puis le départ du Tour de France. Le tour cycliste qui, comme son nom ne l'indique pas, s'élancera d'Italie demain de Florence pour cette 111e édition. C'est une première. Oui, ambiance douche froide pour les démocrates aux États-Unis après le premier débat télévisé chaotique hier soir entre Joe Biden et Donald Trump sur CNN. Le chef de l'État, 81 ans, la voix éraillée, est apparu parfois confus, dépassé. Il devait rassurer pourtant, prouver qu'il était suffisamment en forme pour mener la campagne et enchaîner un second mandat à la Maison-Blanche. Paris manifestement raté, David Thompson.
Durant ces 90 minutes de débat télévisé, la voix de Joe Biden est à peine audible. Ses mouvements sont lents, son regard absent. Le président américain bégaye, se reprend laborieusement, perd le fil de sa pensée à plusieurs reprises. Face à lui, Donald Trump s'en donne à cœur joie. Je n'ai rien compris à la fin de sa phrase. Je ne sais même pas s'il sait lui-même ce qu'il voulait dire. Une prestation jugée désastreuse sur les plateaux des chaînes d'info américaines. Même l'ancienne directrice de communication de Joe Biden, Kate Bedingfield, est obligée de le reconnaître.
Joe Biden a vraiment été décevant durant ce débat. Son plus grand défi ce soir, c'était de prouver aux Américains qu'il a l'énergie suffisante. Et ce n'est pas ce qui s'est passé.
Et les démocrates passent en mode panique. Plusieurs, comme l'ancien conseiller de Barack Obama, Van Jones, appellent ouvertement à changer de candidat avant la convention démocrate prévue cet été.
Il nous reste encore du temps d'ici notre convention pour trouver une autre solution, s'il nous permet de le faire. Ce qu'on a vu ce soir nous panique, c'était douloureux.
Ce débat avait pourtant été demandé par la Maison-Blanche. N'êtes-vous pas inquiète ce soir, demande un journaliste de CNN à la vice-présidente des États-Unis. Ça a commencé lentement, je ne vais pas le nier, mais le choix se fera en novembre. Temporise Kamala Harris, qui devrait remplacer Joe Biden en cas d'incapacité, elle qui est encore plus impopulaire que lui dans les sondages. David Thompson, Miami. RFI.
Et un second débat télévisé est prévu, ce sera au mois de septembre sur la chaîne ABC, donc à 2 mois du scrutin présidentiel. En Iran, c'est le jour J, jour de vote. Ce vendredi, quelques 61 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour une présidentielle organisée dans l'urgence après le décès du président Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. 4 candidats sont en lice pour ce scrutin, 3 conservateurs et un réformateur autorisé cette fois-ci à se présenter. Alors est-ce que ce semblant d'ouverture va suffire à remobiliser les électeurs, sachant que des opposants, notamment dans la diaspora, ont appelé au boycott de l'élection? Élément de réponse avec Oriane Verdier.
Lors des dernières législatives, seulement 40% des Iraniens s'étaient déplacés selon les chiffres communiqués par les autorités. Ces derniers jours, Massoud Pezeshkian, le candidat soutenu par les réformateurs, a tenté de remobiliser les électeurs désabusés, une stratégie qui pourrait marcher selon le chercheur Thierry Coville.
Le fait que de grandes figures réformatrices se soient rangées derrière la candidature Pezeshkian montre qu'il y a quelque chose qui se passe. On dit qu'il y a 15-20% de la population iranienne qui soutient de manière forcenée le régime. Il y a 15-20% de la population iranienne qui haït le régime. Et puis au milieu, vous avez ces couches grises, cette classe moyenne qui est mécontente, mais qui veut le changement pacifique. Pezeshkian, est-ce qu'il va arriver à susciter l'intérêt de cette couche grise, cette classe moyenne? C'est la question, j'ai pas la réponse.
Hajar appartient à cette couche grise. Elle témoigne sous un nom d'emprunt depuis une grande ville proche de Téhéran. Cette professeure n'ira pas voter.
Beaucoup de gens n'iront pas voter. Il y aura peut-être une plus grande participation que lors de la dernière élection, mais pas au niveau de ce que souhaite le pouvoir. Les gens savent que personne ne peut changer quoi que ce soit sans l'accord des gardiens. gardiens de la révolution.
L'espoir pour certains Iraniens est tout de même de voir le candidat réformateur ouvrir une simple brèche que la société civile pourra ensuite se charger de travailler pour un changement progressif.
Voilà, les opérations de vote sont en cours. Les résultats sont attendus dimanche au plus tard. La terre a tremblé au Pérou. Un puissant séisme de magnitude 7 a secoué la côte sud du pays, plus précisément dans le département d'Arequipa. Le gouvernement s'est voulu rassurant. Il n'a pas signalé pour le moment ni de victimes ni de dégâts. L'alerte au tsunami a été levée. Pendant ce temps-là, la présidente péruvienne par intérim achève ce vendredi sa visite officielle en Chine, visite de 3 jours, opération séduction envers les investisseurs chinois. Dina Boluarte compte renforcer les liens déjà bien établis entre Lima et Pékin, liés par un traité de libre-échange en 2009, et aujourd'hui rapprochés par le projet de mégaport à Chiangkhai, un projet des nouvelles routes de la soie. C'est un symbole de l'influence grandissante de la Chine sur le continent sud-américain. Juliette Chénian.
C'était une réunion attendue en Chine. Dina Boluarte a rencontré jeudi les dirigeants de Costco Shipping pour les rassurer malgré la crise démocratique en cours au Pérou sur la stabilité politique, sociale et juridique du pays. L'entreprise étatique chinoise Costco Shipping est l'actionnaire majoritaire du mégaport de Chiangkhai, un projet à 3,6 milliards de dollars dans une petite ville côtière péruvienne où pousse la future plus grande plateforme logistique de la côte pacifique. Objectif, accélérer les exportations du Pérou vers la Chine, notamment pour les minerais, car la Chine est le premier acheteur mondial de cuivre péruvien. À Shenzhen et Shanghai, Dina Boluarte a aussi rencontré des investisseurs pour leur vanter les mérites de son pays. Un contrat signé avec Huawei permettra de former 20 000 jeunes péruviens. Dina Boluarte a aussi invité BYD, le géant de la voiture électrique chinois, à installer une usine au Pérou. Pérou, dont la Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial, c'est le cas dans 9 autres pays d'Amérique du Sud où Pékin a réussi ces 20 dernières années à gagner de l'influence et passer devant les États-Unis. Juliette Chénion, Lima, RFI.
En France, dernières heures pour convaincre, dernier jour de la campagne express pour les législatives anticipées à J-2 du premier tour, donc prévu ce dimanche. D'après tous les sondages, le Rassemblement national reste en tête avec une confortable avance créditée de 36 à 37% des intentions de vote. Ce scrutin se déroulera sous haute sécurité ce dimanche en Nouvelle-Calédonie. La situation là-bas reste tendue après les émeutes de ces dernières semaines contre la réforme électorale. Les rassemblements seront interdits ce week-end dans l'archipel, de samedi matin à dimanche soir, et cela pour poursuivre les efforts de sécurisation menés par les forces de sécurité intérieure. Selon le gouvernement, le couvre-feu est aussi prolongé jusqu'au 8 juillet. Des drapeaux aux couleurs du Tour de France dans la capitale de la Renaissance, à Florence, en Italie, point de départ des cyclistes demain. C'est la première fois en 111 ans d'histoire du Tour, des coureurs bien accueillis hier dans une ambiance Dolce Vita. Thomas Saléger.
Du soleil, un cadre raffiné, vue plongeante sur la ville et bien sûr la foule dans le pays du Giro, la grande course concurrente. Le Tour est comme chez lui, parole du champion d'Italie, Alberto Bettiol.
Je ne peux pas choisir entre les deux. En tant qu'Italien, j'aime le Giro et en tant que coureur cycliste, le Tour de France.
Le Tour à la maison, un grand moment aussi pour son compatriote Luca Mazzato.
Les départs du Tour, c'est toujours spécial. Mais avoir la chance d'être au départ dans ton pays, il est un truc qui est encore plus grand. Donc j'ai essayé de profiter le plus longtemps possible et maintenant il reste que pédaler.
Et décidément ce mariage fonctionne bien, même les Français sont contents de passer quelques jours chez leurs cousins. Nance Peters de l'équipe AG2R Décathlon.
J'adore le côté public de qualité. Les mecs dans l'école, ils montent tous en vélo, ils sont tous en cuissard maillot. Ils encouragent tout le monde du premier au dernier, ils sont contents. Et puis les petits cyprès au bord de la route, c'est beau. L'école enneigée, c'est beau. Voilà, on mange des bonnes pâtes, tout va bien.
Jusqu'ici, en tout cas, attention, ça se corse ce week-end. Les 2 premières étapes dans la botte sont annoncées très difficiles, avec peut-être déjà une grande explication entre favoris. Thomas Saint-Léger, Bertrand Éclair, Florence RFI.
Et puis le rugby, la finale du top 14 ce soir, Toulouse face à Bordeaux-Bègles. C'est un peu David contre Goliath entre le tenant du titre toulousain et le petit pousset girondin. Mais comme dans les contes et légendes, à la fin ce n'est pas forcément le favori qui gagne. Réponse ce soir à partir de 19h, temps universel. Pour l'heure, restez avec nous dans un petit instant, 8 milliards de voisins. Laurence Garcia, à tout à l'heure.